Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. Cette semaine, France Inter Plus 2, Star Wars, la saga culte de George Lucas. Star Wars, c'est trois trilogies de trois épisodes. Ça commence en 1977 et mercredi prochain sortira l'Ascension de Skywalker, l'épisode 9 qui sera le dernier épisode de la dernière trilogie. Le tournage du premier épisode démarre en mars 1976 en Tunisie. Et quand George Lucas découvre le premier montage, il est effondré. Le monteur est viré et on recommence pour rendre le film moins traditionnel et plat. Finalement, le film sortira un an et demi plus tard. À la sortie, c'est pour ou contre. La presse élitiste déteste, la presse plus populaire adhère, tout en considérant parfois que le scénario est faible. Pour les moins de 20 ans, petit retour, direction Festival de Deauville. On est le 11 septembre 1977. Que la force soit avec vous ce soir.
Le troisième festival du film américain s'est achevé à Deauville par la projection d'un film que l'on annonce une fois de plus comme l'un des plus extraordinaires de l'histoire du cinéma. Son titre, La guerre des étoiles. C'est un sommet, si l'on peut dire, de la science-fiction. Il doit sortir chez nous au mois d'octobre. 40 millions d'Américains l'ont déjà vu. Alors, Sophie Dumoulin, vous avez vu, vous aussi, ce film. Quel est votre sentiment?
Je crains que le public français soit plutôt déçu après le battage fait autour de ce film et après aussi son succès américain. Déçus, en tout cas, seront ceux qui ne vont pas au cinéma que pour admirer des prouesses techniques. Les autres applaudiront sans réserve ce conte de fées moderne où l'imagination s'est donné libre cours, moins toutefois dans les péripéties du sujet que dans la réalisation du film. Des robots en forme de parapluie, de dôme ou de boîte mobile, des personnages, des monstres sortis d'un tableau de Jérôme Bosch s'affrontent, les méchants sont vaincus en des duels étourdissants au sabre laser, une bataille intergalaxie fait évoluer les plus sophistiqués des vaisseaux spatiaux, le tout baigne dans une musique triomphale qui constitue à elle seule l'un des aspects techniques les plus intéressants. 2000 unités sonores, soit 10 fois plus que pour un film courant, ont été utilisées, sans parler des bruits de véhicules, de robots, d'armes et aussi des langages issus de la synthèse d'une trentaine de langues. 360 effets spéciaux, pour la plupart inédits, surprennent le public. Ils représentent plus de la moitié des images. Une équipe de 75 techniciens dirigés par John Discra les a réalisés à l'aide de 300 boîtes de modèles réduits, savamment vieillis et mises en scène, avec, il faut le reconnaître, 3 ans de travail, mais aussi beaucoup d'imagination. Pour les faire vivre, il a fallu la création de caméras spéciales capables de se mouvoir horizontalement, verticalement et latéralement. Il a fallu aussi inventer le relais de ces caméras avec un ordinateur capable d'enregistrer et de mémoriser le contenu de chaque plan pour les séquences de surimpression. Bien sûr, tout cela est fantastique, mais il n'en demeure pas moins que ce western céleste et intergalaxie plaira surtout aux amateurs de bande dessinée et aux amateurs de science-fiction qui pourtant ont vu beaucoup mieux dans le genre jusqu'à maintenant.
Et ils sont nombreux à être passés à côté du phénomène Star Wars, même sur France Inter. Voici un extrait du Masque et la Plume du 23 octobre 1977.
La guerre des étoiles, George Lucas, qui commence. Jean-Louis, peut-être, rapidement.
Oui, si vous voulez.
Vas-y.
C'est-à-dire que c'est le genre de film pour lequel il faut se refaire une âme d'enfant, toute fraîche. Ce à quoi nous réussissons très bien.
Oui, enfin, toi.
Moi, je réussis très bien souvent ce genre de film.
Hélas, toi
je
seul.
Je m'assois, j'adore les bandes dessinées, et dès que je vois comme ça des robots extrêmement marrants et qui tombent amoureux les uns des autres, je trouve ça très bien. Alors, la guerre des étoiles, c'est une énorme machine à l'américaine. Avec, alors naturellement dans la pub, on vous donne tout de suite le nombre de milliers de dollars que ça a coûté.
Ah oui.
C'est visible sur l'écran, ce qui est déjà rassurant. Et puis ensuite, il faut se laisser aller dans une espèce d'énorme machine, remarquablement bien faite, où on commence par s'amuser beaucoup, moi je veux dire que je me suis amusé énormément, et lorsqu'on réfléchit, on finit par y trouver tout de même des tas de choses. D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est la reconduction, comme je m'intéresse beaucoup aux romans populaires, aux romans de chevalerie, etc., c'est de voir qu'on a pris tous les ingrédients de la littérature chevaleresque, de la littérature populaire, et qu'on les a transplantés naturellement dans le monde de la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a le bon et le méchant, le méchant, qui est représenté naturellement par un personnage de... Ça se passe naturellement en pleine galaxie, bien sûr, entre Vénus, Saturne, Mercure, etc.
Non, beaucoup plus loin.
Encore beaucoup plus loin, des millions, enfin bref, ça défie l'imagination. Ça, bon. Et alors, vous avez par exemple le château noir du chevalier noir, c'est une planète maléfique dans laquelle naturellement le héros blanc va essayer de s'introduire. Vous avez ceux qui soutiennent le côté blanc, naturellement l'héroïne centrale qui est une princesse.
Allez, bien
sûr. Toute de blanc vêtue naturellement, pas tellement lointaine.
Ah bon?
Elle se rapproche terriblement du héros vers la fin.
Oui.
Oui. Alors, la princesse.
Faut voir comment.
Mais alors bon, tout ça, veut dire que. On joue le jeu, il faut jouer le jeu. Il y a un duel fantastique de Durandal. Alors, il y a des épées, naturellement, c'est des rayons laser.
Oui. Non, c'est du néon.
C'est tout simplement
du néon.
Ah, voilà. Voilà, vous avez un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, celle de Sarensol, qui voit du néon alors qu'il faut voir un laser. Moi, j'ai vu un laser.
C'est
un laser.
C'est plutôt ça, quand même.
On se bat avec des rayons laser.
Avec des rayons de néon.
Des rayons laser. Et bon, il faut marcher. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux, trois petites idées, parce que le monsieur Lucas qui a fait ça n'est pas un imbécile, et ceux qui ont fait le scénario ne sont pas du tout des imbéciles. Ce qui est amusant, c'est de voir comment il reprend les idées, si vous voulez, des idées fortes aujourd'hui. Par exemple, il y a une espèce d'écologie sidérale qui est assez marrante, parce que le jeune héros, c'est une espèce de fermier. De fermier macrobiotique, c'est comme ça qu'on dit, oui. Dans un truc, dans une ferme complètement bidon qui est dans un désert extraordinaire, tous avec des gadgets phénoménaux. Alors déjà, ce jeune fermier va naturellement, vous avez deviné, c'est gros comme une maison, gros comme une fusée interspatiale, et il va tomber la princesse.
Eh oui.
Bon, ils auront des tas d'enfants qui sont tous galactiques. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que deux idées sont intéressantes. Une qui est rassurante et l'autre qui est inquiétante. L'idée rassurante, c'est que les machines peuvent se détraquer.
Ouais,
bon,
ouais,
Stanley Kubrick l'avait sublimement utilisé dans Space Odyssey.
Je tiens aussi à l'écraser.
Il y a un chef-d'œuvre qui est Space Odyssey 2001, qui est le chef-d'œuvre.
Bon,
là, c'est beau, c'est le tout-venant, c'est le truc beaucoup plus qui se limite dans ses ambitions. C'est pas du tout Stanley Kubrick, bien sûr, mais c'est cette idée que un robot peut finir par être plus humain qu'un homme dans la mesure où il se détraque. Et c'est représenté, si vous voulez, d'une façon très marrante, par deux robots, un grand et un petit, c'est une espèce de Laurel et Hardy du cosmos, qui sont qui clopinent, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Il y en a un qui vous dit, est-ce que je vous prête mes circuits magnétisés, etc. L'autre qui dit, voulez-vous pas me toucher, vilain, c'est très marrant, etc. Et puis, il y a une autre idée qui est moins rassurante, parce que ça, faut... Il y a une autre idée qui est moins rassurante, c'est que, et ça là, ça c'est le genre qui m'inquiète, c'est que, d'après ces messieurs, vers un monde qui est terriblement fasciste. C'est-à-dire qu'il y a un fascisme noir, qui est représenté par les vilains, le chevalier qui est coiffé comme une espèce de samouraï, dans son château, dans sa planète forte, c'est le fascisme noir, mais qui est vaincu par une espèce d'autre fascisme, c'est un fascisme blanc. Là, je suis pas tout ça, là, ça commence à m'inquiéter. C'est-à-dire que la cérémonie finale, si mes camarades se rappellent bien, c'est Nuremberg, si vous voulez, en matière plastique blanche. Si, mais pas du tout.
Quoi, Pérez,
Michel Pérez.
Moi, je n'ai pas vu ça.
Non. Je suis très sensibilisé à ça.
Là, moi, j'ai pas vu.
Image d'Épinal, non.
Mais oui, mais c'est des images d'Épinal qui attendent. Quand il y a toute une foule, marche au pas cadencé, fait des gestes comme ça et porte le même uniforme, moi, je flippe. C'est bien ça. Et par conséquent, et dans ce film, c'est ça.
Merci, Jean-Louis. Michel Pérez a vu quoi, là?
Dans la guerre des étoiles.
Fabriqué à partir... Bon, la tradition chevaleresque dont parle Boré à l'heure, ça sort de bandes dessinées américaines et ça sort des bandes dessinées comme Prince Vaillant en particulier. À partir de Prince Vaillant.
Oui.
C'est fabriqué à partir de Flash Gordon, ça, de l'aveu même de George Lucas, qui est un grand amateur de ces bandes dessinées et de ces films qui ont été faits dans les années 30 à la Universal. C'est fabriqué aussi à partir de tous les spectacles télévisés qu'on peut donner depuis des années aux jeunes Américains,
à savoir
les séries qui sont faites directement pour la télévision et aussi tous les films hollywoodiens qui sont des anciens films et dont les droits ont été acquis par la télévision américaine et qui passent là-bas presque 24 heures sur 24. D'où le fait que La Guerre des Étoiles est construite la plupart du temps comme un film de guerre de la Seconde Guerre mondiale, avec l'opposition, lutte contre le totalitarisme en faveur de la démocratie.
C'est
fait là-dessus.
Mais oui, il a raison, bien sûr.
C'est fait là-dessus. En plus, il ne faut pas oublier une chose extrêmement importante.
C'est évident.
Oui, d'ailleurs, toute la fin du film est faite, a été longuement étudiée d'après des films, des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale.
Moi, j'ai cru revoir les Messerschmitt et les avions américains.
Ce n'est pas un mystère, Lucas le dit. D'autre part, il y a une chose qui est très importante, il faut voir comment le public américain, qui fait un succès énorme à la Guerre des Étoiles, c'est un des plus grands
succès
depuis
l'Exorciste,
voit le film. Et quel est le public? Le public a généralement n'a pas plus de 20 ans. Le gros du public, ce sont des adolescents qui voient le film avec leur joint, leur cigarette de marijuana en poche. Car dans la plupart des grandes salles américaines, il n'y a plus tellement de problèmes maintenant. Les gens peuvent tirer leur cigarette de marijuana et fumer. Et ils voient le film de cette façon-là. C'est un film planant. Ça ressemble. C'était comme une espèce d'énorme machine psychédélique comme dans les années 60. Dans les années 60, il y avait tous ces spectacles, ces light shows, ces trucs de lumière, etc., qui étaient faits pour être vus dans des discothèques, dans des choses comme ça. Or, la Guerre des Étoiles, maintenant, c'est une espèce de grand spectacle cinématographique fait à partir de ce principe-là. C'est peut-être pas voulu au départ, mais c'est comme ça que c'est utilisé maintenant. Et c'est un film qui joue uniquement sur les effets visuels. C'est absolument prodigieux. Et tout à l'heure, quand on parlait du montage de documents, Il était une fois l'Amérique. Je crois qu'on peut rapprocher Il était une fois l'Amérique et la vogue des grands documents, des grands montages de documents et de films hollywoodiens qui a cours maintenant aux États-Unis. Tous ces montages sont faits sur des scènes choc qui sont autant d'effets visuels, un bombardement visuel continuel. Et qui, bien sûr, ne renvoie à aucune espèce de réflexion possible ou imaginable. Il n'y a aucun point de vue critique, absolument rien. Et les grands films américains, quand je parle de grands films, je parle des films extrêmement diffusés, qui ont coûté très cher, etc. Que ce soit La Guerre des Étoiles, que ce soit Les Grands Fonds.
Mais ça, c'est parfaitement débile, Les Grands Fonds.
Bien sûr que le sujet de La Guerre des Étoiles est plus astucieux que Les Grands Fonds. Ouais. Mais je les rapproche parce que ce sont des films qui sont faits uniquement sur l'impact physique et sur le pouvoir visuel qu'ils ont sur les gens. C'est pour ça que je les mets dans les catégories des films planants. Ce sont des films qui sont techniquement extraordinairement bien faits. Et plus ça va, plus c'est parfait.
Oui, mais
parfait.
Alors Michel, c'est là...
Plus
c'est
parfait.
Tu apportes drôlement de l'eau à mon moulin, parce que toute la cérémonie finale...
Tu nous casses les pieds avec ta cérémonie finale.
Mais elle est très importante,
film... Non, elle dure 30 secondes.
Le film se termine
marche
là-dessus.
Marche nuptiale de Lohengrin, zut
Wagner,
alors.
Ça ne te dit rien, Wagner?
Oh, bah Wagner, c'était tout de même un peu avant Hitler, quelques années, quand même.
Non, mais je voulais dire par là que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux. Enfin, dangereux pas d'un point de vue moral, mais peut-être d'un point de vue politique. Parce que ce sont des objets de consommation. Le film devient de plus en plus un objet de consommation de l'instant.
Et d'abrutissement total.
Et aucune réflexion n'est possible à partir de ce genre de film. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Et La Guerre des Étoiles, c'est vraiment le grand pied. Ça, absolument.
Alors attention, tu es en train de conseiller aux gens d'aller prendre leur pied là.
C'est-à-dire qu'il faut, qu'ils soient...
Et tu es embêté de leur conseiller.
Oui, mais c'est agréable.
Il faut y aller avec une âme fraîche, je te l'ai dit.
Si la salle éclate en applaudissements... À la fin, c'est un tonnerre d'applaudissements.
À Paris.
Les grandes salles parisiennes archi bourrées avec des queues de 150 mètres, c'est qu'il y a quand même une raison. Oui. C'est quand même très bien.
Toujours
fait.
Ton point de vue
c'est
primaire.
Du cinéma.
Là.
Bon, ben, évidemment, il faut abdiquer tout esprit critique. C'est complètement débile. C'est complètement débile,
non,
monsieur
Peter Serres. C'est pas vrai, c'est pas complètement débile.
Monsieur Peter Serres. Oui,
absolument pas, parce que c'est très travaillé.
C'est une perverse débilité.
Oui, c'est ça. Voilà. Non, ouais. Peres a dit exactement tout ce qu'il fallait dire, et je ne devrais pas ajouter un mot.
Bon.
Simplement, je dis
tant
que...
Tant mieux, parce que ça m'arrange.
À la Guinness, jouant les Pères Noël avec une grande barbe blanche et jouant les purs esprits devant la maléfique étoile noire, moi, ça me fait marrer. Mais je reconnais que devant une salle emportée par un délire d'enthousiasme, je me laisse emporter moi aussi. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She
could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freaky show. Take a look at the is their life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
et David Bowie et son Life on Mars, le NRV La Suite France Inter Plus redescend sur Terre en décembre 2015 pour explorer la rediffusion de 2 numéros de Pop & Co de Rebecca Manzoni. La saga vue par les oreilles, charte lexicale châtiée de ce récit chevaleresque et la fabuleuse bande-son de Star Wars ou l'invention du métier de designer sonore.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, la Gaule découvrait la guerre des étoiles dans la langue de Molière. Obi-Wan Kenobi, un vieil homme en burnous, y tenait ce langage.
Cette ville est le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie.
Diable, des malandrins, un mot que l'on retrouve dans les contemplations de Victor Hugo et qui désigne des bandits de grand chemin. Et le monsieur en burnous, de poursuivre...
Cela dit, sois vigilant, les rixes se sont menés courant par ici.
Palsambleu, rix est un mot qui sonne tellement mieux que baston. La beauté de ce vocabulaire est due à un homme de lettres à qui la Fox confia l'adaptation française en 1977. Il s'agit de monsieur Éric Kahane, traducteur en France de Lolita de Nabokov et du théâtre d'Harold Pinter. En 77, Éric Kahane n'est pas une bleusaille en cinéma. Il a déjà traduit « Orange mécanique » de Stanley Kubrick pour les spectateurs français et assurera l'adaptation de « Reservoir Dogs » plus tard. La guerre des étoiles étant un récit chevaleresque, Éric Kahane utilise un lexique d'antan. Avec ses dialogues, la guerre des étoiles, par chez nous, ça devient un peu Ivanhoé, mais dans l'espace.
C'est d'ailleurs Éric Kahane qui impose le titre français « La guerre des étoiles ».
Éric Kahane encore, qui fait entrer le nom de Dark Vador dans nos têtes, tandis que dans la version originale, le type s'appelle Darth Vader. Et pourquoi ce changement de nom ?
Eh ben parce que prononcer le TH final de Dark en français, c'est pas de la tarte.
Alors va pour Dark. Mais Monsieur Kahan transforme d'autres noms et sème une belle pagaille. Ainsi, dans la version française de La Guerre des Étoiles, sortie en 77, donc, l'on entend...
Le chic Tabal, hein, est le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir.
Qui ça ?
Le chic Tabal, hein.
Chic Tabac, donc, traduction de Chewbacca.
Oui.
Chewbacca étant lui-même la contraction des mots Chew Tobacco, soit mâché du tabac ou chiqué du tabac, d'où Chic Tabac.
Ben oui, chiqué, c'est QFD.
Mais poursuivons avec l'entrée d'un nouveau personnage.
Han Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor.
Dans la version originale, Han s'appelle Han. Mais quand on le dit vite sans le H aspiré, ça donne le prénom féminin Han. Ce qui ferait de Monsieur Solo un transsexuel, genre qui à l'époque n'était pas à la page. Et puis le prénom Han confère à notre héros un petit côté breton bien appréciable. Cette adaptation française, signée Eric Kahan, inspira un livre-disque pour enfants paru en 1979.
Voici l'histoire extraordinaire de la guerre des étoiles. Vous pourrez la lire en même temps que moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page quand vous entendrez le robot R2-D2 faire comme cela. C'est bien compris ?
Et l'on prend ici encore plus de liberté avec les noms de Star Wars.
J'ai porté dans le passé le nom de Obi-Wan Kenobi. J'étais à l'époque un chevalier Jedi.
On le sait, à la radio plus qu'ailleurs, tout le monde peut s'en mêler les voyelles, en remplaçant Jedi par Judai.
Oh, dit Luke.
Autant vous dire qu'après la sortie en salle de La Guerre des Étoiles en 77, les Américains ont repris le dossier en main pour l'adaptation française, et Monsieur Eric Kahan fut malheureusement écarté. Mais tout est bien qui finit bien.
Chic Tabac prit les commandes, et le vaisseau bondit dans l'espace de toute la force de ses tuyères.
Avec Star Wars, le bruitage au cinéma ne sera plus jamais pareil. Car Star Wars, c'est le génie d'un créateur de son qui s'appelle Ben Burtt. Un homme qui eut notamment l'audace de balancer des barrissements d'éléphants dans l'espace.
Des barrissements d'éléphants ?
Oui, mélangés au son d'un pneu qui crisse sur une chaussée mouillée, ça nous donne un vaisseau spatial qui traverse l'écran. Jusqu'ici, eh ouais, c'était un chasseur-taille. Jusqu'ici, la bande-son des films de science-fiction n'était que déluge de bruits électroniques. Mais le réalisateur George Lucas refuse ce cliché. Il confie à Ben Burtt le soin de récolter des sons naturels pendant un an. Des bruits qu'on connaît tous et qui permettront de rendre l'univers intergalactique de Star Wars plausible et familier. Ben Burtt sonorise les sabres laser que vous entendez là, en mélangeant le ronflement d'un vieux projecteur de cinéma avec les parasites produits par le câble défectueux de son appareil enregistreur. Conclusion.
Les sons de Star Wars, ce sont des bruits du futur fabriqués grâce au hasard et avec des vieux machins.
Dans une interview accordée au Los Angeles Times en 1976, George Lucas décrit Star Wars comme du futur usagé. Jusque-là, nous étions habitués à des vaisseaux spatiaux rutilants et nickel-chrome, car jusque dans les années 70, le futur, on le voyait plutôt propre et neuf. Dans Star Wars, quand le vaisseau Faucon Millennium est touché par un astéroïde, ça fait le bruit d'une benne à ordures qu'on est en train de vider. Ben Burtt, qui supervise le son de toute la saga, dont celui de l'épisode qui sort en salle aujourd'hui même, Ben Burtt, disais-je, est aussi un homme qui possède une culture sonore de l'histoire du cinéma hollywoodien. Lorsqu'il était étudiant, son boulot, c'était classer les banques de sons d'un grand studio. Et dans Star Wars, il s'est amusé à replacer un cri piqué aux aventures du capitaine Wyatt, western de Raoul Walsh, sorti en 1951. Et ça fait... Ce cri, on l'entend dans le premier Star Wars et dans Le Retour du Jedi. Ça aurait pu s'arrêter là, mais la bande-son de Star Wars fut tellement décortiquée que ce cri d'une seconde fut repris comme une blague et un clin d'œil à Ben Burtt dans des dizaines et des dizaines de productions. Vous pouvez par exemple l'entendre dans Toy Story, Kill Bill, en passant par King Kong ou Batman. Bon bref, avec Star Wars, Ben Burtt crée une identité sonore puissante pour la série et contribue comme ça à inventer le métier de designer sonore au cinéma. Sa bande-son ressemble même à une partition musicale avec aigu, basse et silence absolu. « Ben Burtt crée par la suite la voix d'E.T. ou le claquement de fouet d'Indiana Jones, Ben Burtt ou un homme qui a changé notre oreille pour le cinéma.
Michael Kiwanuka qui lui aussi se prend pour un héros et nous retrouvons tout de suite nos compères du Masque et la Plume 5 ans après pour la sortie du Retour du Jedi. Alors leurs plumes seront-elles aussi aiguisées? C'est tout de suite dans le NRV, France Inter Plus de Star Wars ce soir.
Le Retour du Jedi?
Ouais.
Oui. Qui commence? Jean?
Par
Odile?
Moi.
Bon.
Bon, bah, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, bon, il n'y a pas grand-chose à raconter, sauf que c'est un film qui est fait pour les mouflets, ça, il n'y a pas de problème. La première heure n'est pas mal, dans la mesure où elle a pas mal d'inventions, c'est-à-dire il y a une collection, une galerie de monstres qui est assez impressionnante, notamment il y a une espèce de montagne obèse et visqueuse et éructante qui est très portée sur les choses du sexe avec les dames et qui, comme il n'aime pas les humanoïdes masculins, les surgèle un peu comme Vivagel, bien sûr. Et il y a une
vas-y Maminova.
Donc il y a toute cette galerie comme si le type qui les a inventés disait voilà, je vais vous montrer ce que je sais faire. Il y en a un notamment qui m'a fait cauchemarder carrément le lendemain, c'est un trou dans, ça se passe dans le désert, il y a un trou dans le sol, et dans ce trou, il y a des milliers de langues, de luettes, de papilles, et si vous tombez dedans, ça vous digère pendant 1000 ans, ce qui est vraiment une éventualité extrêmement délicieuse. Bon, tout de suite après cette heure d'invention, ça se gâte carrément parce que ça devient la guéguerre interstellaire. Alors ça ressemble aux petits jeux vidéo qu'on voit dans les grands magasins, en plus grand bien entendu, ou alors ça ressemble aussi à ces interminables et inévitables feuilletons à la télé où des machines qui ressemblent à des boîtes de conserve cabossées se tapent sur la gueule. Enfin, ça devient extrêmement lassant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça marche si bien et qu'il y a des adultes pour ne pas tomber raide mort d'ennui. Il y a simplement une chose que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on retrouve nos deux vieux copains, là, les robots, notamment R2-D2 qui ressemble à un aspirateur traîneau et qui crépite ses émotions, et un autre qui a une forme du qui est doré, qui a l'air d'une folle tordue, et qui parle avec un délicieux accent d'Oxford. Bon, en dehors, on est très content de les retrouver, mais alors en dehors de ça, c'est vraiment 2 heures de perdu.
Alors, genre, est-ce qu'il y a vraiment un érotisme torride dans ce retour du Jedi, comme semble le dire Odile?
Lorsque Odile parle d'ennui, elle traduit très exactement l'impression que j'ai eue devant une salle qui naturellement était comble, étant donné la fabuleuse publicité qui a été faite autour de ce film, mais toute cette immense foule était plongée dans une sorte de torpeur, et véritablement, il n'y a eu qu'une seule réaction, et elle m'a énormément surpris, une énorme hilarité quand les deux héros, là, la princesse Leia et le brillant Luke, je crois bien comme ça qu'il s'appelle, n'est-ce pas ?
Luke Skywalker. Oui.
Et lorsqu'il déclare à la princesse qu'il est son frère. Pourquoi est-ce que le public a trouvé ça extrêmement drôle ? C'est qu'il s'était sans doute tellement ennuyé jusque-là qu'enfin il y avait quelque chose d'à peu près concret. Alors Odile également a parlé de ses poupées, de ses maquettes, qui ressemblent très exactement à celles qu'on voit dans les vitrines de Noël dans les grands magasins. Il n'y a absolument aucune espèce d'invention. Ce sont de faux nounours, de faux crapauds, de faux éléphants, de faux singes, etc. Alors là où vraiment je suis stupéfait, c'est qu'ayant des moyens fabuleux, George Lucas disposant vraiment de toute la technologie d'Hollywood, cette technologie soit au niveau le plus bas, alors que la véritable technologie, celle qui est appuyée sur la science, s'est envoyée dans l'espace des missiles qui vont au-delà du système solaire, savent créer des puces d'un millimètre carré qui contiennent des dizaines de milliers d'informations. C'est ça le fantastique moderne. Ce qu'on nous montre sur l'écran, c'est rien. C'est insignifiant par rapport à la réalité que nous voyons tous les jours sur les écrans de télévision. Moi, je suis absolument stupéfait que ces gens-là semblent vivre en vase clos à fabriquer leurs petits gadgets personnels sans jamais regarder ce que font les véritables savants et les véritables techniciens qui ont bouleversé notre univers. Alors, ça, c'est un film qui me plonge dans des abîmes, et si, comme je n'en doute pas, il obtient en France autant de succès qu'en Amérique, ça prouvera que le public n'est peut-être pas tout à fait aussi évolué que nous voudrions, que nous le souhaiterions.
Bien, Jacques Fieschi, vous avez vu Le Retour des Jedi ?
Oui, je l'ai vu. Je suis un petit peu moins sévère que Georges Charansol. Je suis d'accord, c'est un cinéma souvent inepte, amnésique, régressif, c'est vrai. Mais il me semble aussi que Lucas a trouvé au cœur du pop-corn une certaine force mythologique qui est un peu celle du conte, parfois. Voilà. J'avais trouvé La Guerre des Étoiles absolument affligeante. Déjà, j'avais été beaucoup plus intéressé par l'Empire contre-attaque. Et là, je trouve qu'il y a une certaine invention quand même. Les héros sont nuls, bien sûr, sauf la princesse, qui a une certaine maturité, elle, je trouve, et qui regarde.
Elle est belle.
Qui regarde ses deux enfants débiles comme ça, avec un air adulte. Mais l'itinéraire de Luke Skywalker, la recherche du père, comme ça, ça donne un semblant de consistance à ces marionnettes.
Charansol a parlé de torpeur du public. Moi, je crois que cette torpeur qui est qu'il est réel, tient surtout à l'utilisation intensive du son Dolby. Et il est vrai qu'on le submergeait par un torrent de décibels, et je crois que ce qu'on aimerait, quand on assiste à la projection du film en salle avec le public qui a une moyenne d'âge de 15 ans, on aimerait qu'il y ait une réaction de cette salle, que ce soit comme un vieux mélodrame où les gens crient attention lorsque le héros va être surpris par le traître, etc. On aimerait que ça applaudisse, que ça crie hurrah. Personne n'en a le loisir parce qu'il y a tellement de bruit, n'est-ce pas, qu'on n'entend absolument pas la moindre réaction. C'est pas possible, on est submergé. Alors, il y a déjà ça, je trouve ça excessif. Deuxièmement, c'est vrai que c'est assez ennuyeux et ça manque d'invention. C'est un film qui est fait sur la mobilité, sur l'extrême vitesse. On va plus vite que la lumière, etc. Quand on va plus vite que la lumière, il arrive qu'on n'ait plus rien à montrer. C'est un peu gênant dans le film, justement. On en arrive toujours à retrouver les mêmes effets d'accélération brusque du mouvement des appareils de transport, des choses comme ça. Bon, ce sont des effets répétés continuellement. Je pense aussi que on aurait pu, et ça je crois que dans le deuxième de la série qui est le meilleur, L'Empire Contre-Attaque, qui est d'ailleurs signé par un metteur en scène qui n'est pas indifférent, qui est Irving Kirchner, il y avait un imaginaire beaucoup plus riche. Or là, cet imaginaire est extrêmement pauvre. On voudrait qu'il y ait que la vitesse soit dans les idées, dans les trouvailles, que ce soit une cascade de trouvailles permanente. Or ça n'est pas le cas. La vitesse, elle est seulement dans les effets. Alors parfois ça c'est très réussi. Il y a une espèce de course de moto volante, de scooter volant dans une forêt de séquoia, une espèce de labyrinthe d'arbres qui est vraiment à couper le souffle. Ça, c'est très très réussi, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais enfin, on en reste à ces effets physiques.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie, et puis t'attends par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seul la nuit sous le trait d'un jeune homme en qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Tu prendras mon nom. Tu prendras mon nom. Tu prendras mon nom.
jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nu.
L'univers avec Nekfeu et Vanessa Paradis, de belles étoiles vagabondes. C'était le NRV France Inter Plus de Star Wars épisode 1. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on pointe notre sabre laser sur George Lucas, le créateur du mythe. Alors je vous souhaite le bonsoir.